Bienvenue à notre deuxième conseil municipal de cette nouvelle mandature. Nous allons procéder à la désignation d'un secrétaire ou du secrétaire de séance et je vous propose Isabelle Lattard. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Je vous indique que j'ai reçu un certain nombre de procurations. Pascal Gilles a donné procuration à Sylvain Gilles. Mireille Zandominigui a donné procuration à Madame Marlène Thibault. Et Jean-François Mengui a donné procuration à Jean-Baptiste Savin. Je vous fais état aussi d'un certain nombre de remerciements que nous avons reçus, en particulier de la famille Daladier pour le message de sympathie que nous leur avons adressé à l'occasion du décès de Madame Roseline Daladier, née Castinel. Remerciement aussi de la part de Monsieur Georges Gaille à l'occasion du décès de son épouse. Monsieur Jacques Caroni, responsable du don du sang, tient à nous remercier d'avoir accepté le maintien de la collecte du sang malgré la situation exceptionnelle qui était de rigueur à ce moment-là. Donc c'était au mois de fin mars. Message aussi de Madame Séverine Aymar Lurie, directrice de l'école de des Amandiers, qui remercie la municipalité pour tous les efforts fournis par l'ensemble de nos services municipaux pour la mise en œuvre de la réouverture de l'école et notamment de l'école des Amandiers. Message aussi, bien sympathique, message de remerciement de nos infirmières qui remercie Monsieur le maire, Monsieur Bali, directeur général des services, Madame Mémon, directrice de cabinet, pour le fait que nous avons réuni le 16 mars les personnels de santé de la commune pour s'unir dans cette crise sanitaire. Nous avons créé un groupe WhatsApp Covid-19 Mairie Médicale. Juste avant le confinement, nous avons réagi très promptement. Nous avons informé, donné des moyens, été à l'écoute du personnel soignant et à sa disposition. Les infirmières remercient également au passage les pharmaciennes Sophie et Vérane, notamment pour le prêt de matériel. Voilà, ensemble nous avons fait un super travail. D'autres infirmières dans d'autres villages n'ont pas eu forcément la même chance. Dixit, les infirmières de Camargue. Vous avez eu le procès-verbal de la séance précédente. Est-ce qu'il appelle de votre part des remarques ou des questions ? Madame Thibault ?
Oui, concernant la page de présentation donc, du procès-verbal numéro 171, il est souhaitable que soit rajouté dans les absents excusés Jean-François Mengui, donnant procuration à Monsieur Jean-Baptiste Savin.
Ce sera fait.
Même si dans les délibérations, il est bien précisé que M. Jean-Baptiste Savin donc avait la procuration de M. Mengui. Merci.
Ce sera fait. Sous réserve de cette petite rectification, je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Et nous passons au premier point de l'ordre du jour, débat d'orientation budgétaire, rapporteur Liliane Diaz.
Conformément à l'article L2312-1, L3312-1 et L4312-1 du Code général des collectivités territoriales, ainsi que l'article 107 de la loi NOTRe, Monsieur le maire a présenté un rapport sur les orientations budgétaires proposées pour l'année 2020, les engagements pluriannuels envisagés, la structure et la gestion de la dette, ainsi que l'évolution des dépenses de fonctionnement et du besoin en financement, après avoir procédé à une analyse financière rétrospective. Je vous rappelle à titre exceptionnel l'ordonnance du 25 mars 2020 qui a autorisé la tenue du débat d'orientation budgétaire lors de la séance consacrée à l'adoption du budget primitif. Une discussion entre élus a suivi la présentation de ces orientations. Il est demandé au Conseil municipal de prendre acte de la tenue du débat d'orientation budgétaire et de prendre acte du rapport sur la base duquel se tient le débat d'orientation budgétaire.
Voilà, et nous avons laissé Monsieur le DGS développer ce rapport.
Voilà, donc une petite particularité, on entend bien ? Ouais. Une petite particularité cette année, le DOB, de façon dérogatoire, peut se tenir lors de la même séance du conseil municipal qui présente le compte de gestion, le compte administratif et le budget primitif. Donc la présentation du débat d'orientation budgétaire va développer des éléments qui seront exactement les mêmes que ceux ceux du compte administratif et du budget primitif. Donc ensuite, pour la présentation du dossier du compte administratif et du budget primitif, je ne reprendrai pas l'explication puisqu'on l'aura faite au moment du DOB. Par contre, on pourra répondre aux questions à chacun des dossiers. Voilà. Donc alors, tout d'abord, on va faire l'analyse des résultats de l'exercice 2019. Le résultat de clôture du budget principal se présente comme suit. Un excédent de fonctionnement de 402 000 euros, un excédent cumulé d'investissement de 483 000 euros, quasiment 484 000 euros, donc une balance de clôture excédentaire de 886 000 euros. La section de fonctionnement, on a en dépense 5,2 millions d'euros, une augmentation de 2,79% par rapport à l'exercice précédent. Le chapitre 11, charges à caractère général, donc une légère hausse des charges à caractère général, plus 0,54%, ça fait 7 300 euros en plus. Donc on peut dire qu'il y a une relative stabilité sur ce chapitre. Les éléments importants, eau et assainissement, stabilité, à noter quand même qu'il y avait eu une baisse de 18 000 euros en 2018, mais on verra après dans le budget primitif qu'il y a des problèmes de décalage de factures. Le gaz, on est en baisse, moins 6 700 euros. L'électricité, plus 15 000 euros. On revient au niveau de 2017, qui lui était en baisse par rapport aux exercices précédents, puisque en 2017, on commence à voir clairement les effets du passage en LED d'un certain nombre de bâtiments publics. Là aussi, la hausse est liée à un décalage de facturation de l'exercice 2018 sur l'exercice 2019. Donc il faudra regarder ce budget sur la durée, sur plusieurs exercices pour faire une courbe et voir qu'il y a une stabilité avec une baisse depuis 2017. L'alimentation, plus 10 000 euros. Donc là, c'est dû au fait qu'on soit monté en gamme au niveau des produits locaux et des produits bio. L'entretien des terrains, moins 25 000 euros. Ça, c'est dû au fait qu'une année sur deux, on procède à la fertilisation des stades. Donc en 2019, elle n'a pas eu lieu. Donc ça explique la baisse. Entretien et réparation des bâtiments publics, soit plus 6 000 euros. Entretien des voiries, plus 24 000 euros. Entretien du matériel roulant, moins 6 000 euros. Maintenant, ces prestations diverses, moins 20 000 euros. C'est dû au fait qu'en 2018, on avait une ligne qui était beaucoup plus importante qu'à l'accoutumée, puisqu'on avait dû procéder à des réparations importantes suite à un fort coup de mistral sur les illuminations de Noël. Fêtes et cérémonies, moins 4 500 euros, réception, moins 3 500 euros, et les frais de nettoyage, plus 7 000 euros. C'est dû au fait que nous avons un nouveau marché de prestations d'entretien pour les écoles primaires et que on a demandé des travaux supplémentaires, et donc ça a un coût, le marché est un peu plus cher que lors des précédents exercices. Charge de personnel, le chapitre 012, elle s'élève à un peu plus de 3 millions d'euros, contre 2,872 millions d'euros en 2018, donc une augmentation de 5% par rapport à l'exercice 2018. Donc les causes, les raisons de l'augmentation, l'externalisation de l'entretien des écoles primaires et le non-remplacement après départ à la retraite de 3 agents, ainsi que les départs en retraite fin 2017 et début 2018, d'agents remplacés par des personnes ayant logiquement moins d'ancienneté, ainsi que la mise en disponibilité en mars 2018 du chargé de communication, ont fait que le budget 2018 a baissé. Le chargé de communication a été remplacé en janvier 2019. On a eu un policier municipal qui est arrivé sur tout l'exercice, un quatrième policier municipal qui a été remplacé sur l'ensemble de l'exercice 2019. les revalorisations du régime indemnitaire, les promotions internes ou les reclassements opérés sur l'exercice expliquent aussi une hausse. Et également, il faut tenir compte de l'intégration dans le chapitre 012 d'une dépense qui était en autre charge, chapitre 65, c'est la cotisation de la commune au CNAS pour 15 000 euros. Sur la durée, toujours, on reste sur des dépenses qui sont en deçà de l'exercice 2017, qui était le plus important de ces dernières années. La prime de fin d'année, également, instaurée en 2018, représente pour 2019 un montant total de près de 25 000 euros. Elle était de 21 000 euros en 2018. Les autres charges, donc 484 000 euros, on est stable par rapport à 2018. Les atténuations de produits, 105 000 euros. Les charges financières, 53 000 euros. Et les dotations aux amortissements, 202 000 euros. En recettes, on est à 5,6 millions d'euros. Donc stabilisation de ces recettes malgré la DGF qui est tombée de 60 000 euros en 2018 à 35 000 euros en 2019, et ça s'ajoute aux 355 000 euros que l'on a perdu sur la DGF depuis 2014. Les nouvelles recettes ont permis donc de compenser cette nouvelle perte, notamment la répartition des droits de mutation à titre onéreux, 224 000 euros stables par rapport à 2018. En 2017, elles étaient de 169 000 euros. On a eu une hausse on se maintient à un niveau intéressant. Les contributions directes ont progressé, elles, de 20 000 euros. Donc, soit c'est l'effet base, puisque les taux n'augmentent pas, soit du fait de l'arrivée de nouveaux foyers fiscaux sur la commune. Les produits de services ont augmenté de plus de 17 000 euros, avec une augmentation de plus 13 000 euros, rien que pour les recettes du périscolaire et de la restauration municipale. Donc ça montre l'attractivité de nos services en la matière. Donc ce qui fait que l'on termine avec un excédent de fonctionnement de 402 000 euros qui est envoyé sur les recettes d'investissement de l'exercice 2020 avec une priorité sur l'annuité d'emprunt qui est de 191 000 euros pour 2020. En investissement, on est en dépense à 1,1 million d'euros et en recette à 1,058 million d'euros. Avec le report de l'excédent cumulé de l'exercice précédent, on est à 484 000 euros presque d'excédent de fonctionnement. Les principales dépenses en section d'investissement en 2019, donc la première part, participation de la commune à l'aménagement du rond-point par le département sur la RD 43, 71 000 euros. L'aménagement paysager du rond-point de la route de Violès, 12 000 euros. Différents travaux sur les bâtiments scolaires à la cuisine centrale, 139 000 euros. Travaux sur les autres bâtiments communaux, 132 000 euros. Travaux sur les autres réseaux et la voirie, 135 000 euros. Les travaux d'électrification et d'éclairage public, 21 000 euros. Renouvellement ou réparation des poteaux incendie, 28 000 euros. Signalisation et mobilier urbain, 15 000 euros. Le renouvellement de matériel et d'outillage des services municipaux et des écoles, 76 000 euros. Véhicules, 25 000 euros. Et études diagnostiques, désamiantage et premiers travaux du projet d'entrée de ville sur le bâti, 150 000 euros. Au niveau des recettes, nous avons eu 132 000 euros de subventions pour différents projets venant de l'État, de la région ou du département, 110 000 euros au titre du FCTVA, 70 000 euros de taxes d'aménagement. On avait 33 000 euros en 2018, donc en fait c'est les nouvelles demandes de permis de construire sur la commune qui expliquent cette hausse. Un excédent de fonctionnement en 2018 de 542 000 euros et un excédent d'investissement 2018 reporté de 526 000 euros et diverses opérations d'ordre pour 203 000 euros. Voilà pour l'exercice 2019. Maintenant, les orientations pour 2020. Alors, en section de fonctionnement, au niveau des charges à caractère général, l'objectif reste la stabilisation de ces dépenses, voire leur diminution, malgré les aléas et les surcoûts liés à la crise du Covid-19 qui ont engendré des dépenses imprévues en ce début d'exercice. Cependant, des postes budgétaires ont aussi, du fait de cette crise, été gelés durant le temps de confinement. On verra tout à l'heure ce que ça donne au niveau des recettes. Donc pour ces dépenses, il faut tenir compte des dépenses en eau et en assainissement qui seront plus importantes cette année du fait que nous aurons des décalages de facturation. Habituellement, on ne paye que deux semestre sur un exercice, le dernier semestre de l'année N-1 et le premier semestre de l'année en cours. Là, on aura trois semestres, puisqu'on aura deux semestres de 2019 et un semestre de 2020. Et également, une fuite importante qui a engendré un surcoût sur l'école Mistral, pour laquelle on a déjà demandé des dégrèvements et on va continuer. On est en train de demander un alignement de la facturation sur notre consommation habituelle, ce qui se fait en général pour les particuliers. Des économies réalisées par le passage en LED, comme on l'a dit tout à l'heure, permettront de stabiliser, voire de baisser les dépenses en énergie. Il y aura notamment des travaux sur l'école des Amandiers qui permettront le passage en LED. Donc ça sera cet été. On aura donc un semestre avec un nouveau bâtiment passé en LED. Les dépenses alimentation et fêtes et cérémonies vont être diminuées du fait de la crise du Covid-19. La cantine n'a pas fonctionné pendant plus de 2 mois et évidemment des fêtes ont été annulées, notamment la balade gourmande. Il y a également donc des dépenses supplémentaires liées à cette crise, fourniture d'entretien, de petits équipements, vêtements de travail, entretien et réparation de bâtiments publics. Le personnel communal, alors même si on a un prévisionnel large qui figure à ce BP 2020, la collectivité va porter ses efforts pour maîtriser les dépenses de ce chapitre et pour répondre à cet objectif de maîtrise de ses dépenses sur la durée. Le non-remplacement d'un agent de départ en retraite du service enfant jeunesse permettra de remplir cet objectif en partie. Et le fait qu'on n'ait pas eu à recruter des animateurs saisonniers pour les vacances de Pâques et que nous en aurons moins du fait du plafonnement des effectifs qui nous est imposé cet été contribuera également à atténuer les dépenses sur ce chapitre. Il faudra cependant tenir compte des reclassements réglementaires comme tous les ans, des avancements d'échelons et de grades et les promotions internes qui seront accordées. Des astreintes et des heures supplémentaires, ainsi que le versement en juillet, ce sera un dossier qui va être proposé au conseil municipal tout à l'heure, d'une prime de risque pour les agents qui ont été particulièrement exposés durant la crise et qui équivaudra à un montant total de 15 000 euros. Donc on a prévu un prévisionnel de 3,25 millions d'euros, un prévisionnel large qui permet aussi d'envisager et d'assumer d'éventuels choix de recrutement par la nouvelle municipalité au cours de l'exercice 2020. Mais l'objectif, ça c'est du prévisionnel, effectivement l'objectif est d'être bien en deçà de ce prévisionnel, comme on l'a dit. Les charges de gestion courante, chapitre 65, elles seront stables entre 2018 et 2019, mais on aura sans doute une légère hausse, une hausse en 2020, du fait de l'augmentation de la subvention de la commune, de la subvention obligatoire de la commune à l'OGEC, à l'école Saint-Andéol, qui passera de un peu moins de 42 000 euros en 2019 à 60 000 euros en 2020, du fait de l'intégration du coût des élèves de maternelle dans le calcul du forfait. Même si on y reviendra tout à l'heure, on a établi un accord avec l'école Saint-Andéol pour que l'impact ne soit pas direct et immédiat sur cet exercice. Stabilité de la subvention communale au CCAS, 73 000 euros. Même chose pour la subvention au SDIS, la participation au SDIS à 128 000 euros. Les subventions aux associations sont en toute petite hausse, donc avec une stabilité autour de 94 000 euros. Et les diverses contributions aux syndicats, ERAO, syndicats SEV, sont également stables. Chapitre 14, la contribution au FPIC est également stable à 105 000 euros. Les intérêts d'emprunt, chapitre 66, seront stables à environ 55 000 euros et les dotations aux amortissements sont à 211 000 euros. Donc les dépenses réelles de fonctionnement seront à un niveau de 5,5 millions d'euros. Les recettes de fonctionnement, elles, donc l'essentiel étant constitué notamment par les recettes fiscales, donc les taux devant rester identiques, on peut estimer par l'effet base et l'arrivée de nouveaux foyers fiscaux la recette fiscale à 1,88 million d'euros, sachant que la taxe d'habitation est supprimée, mais elle est compensée sur la base, sur les bases 2017 et le taux 2019 intégralement par l'État. Les autres recettes de fonctionnement, la dotation globale de fonctionnement nous a été notifiée hier, donc, et on a eu la confirmation qu'elle baissait de nouveau à 16 000 euros. Je rappelle qu'en 2014, on était à 2014, on était à plus de 400 000 euros. La dotation de solidarité rurale reste stable à 62 300 euros. L'attribution de compensation de la communauté de communes à 2,15 millions d'euros, elle est stable. Et les autres recettes, le produit des services gérés en régie, restauration municipale, crèche, ALSH, salle communale. Il y aura une baisse du fait de la crise. Des services ont été fermés et les salles n'ont pas pu être louées. Les participations de nos confidenceurs, CAF et MSA, on a une nouvelle rassurante, mais qui n'est pour l'instant qu'orale, elle serait maintenue à égalité avec ce qu'elles étaient lors de l'exercice 2019. Donc ça veut dire qu'on n'aurait pas de perte par rapport à 2019 sur le budget 2020. C'est plutôt une bonne nouvelle, mais on attend la confirmation écrite. C'est pour ça qu'on est relativement prudent sur les prévisions budgétaires. Les participations et subventions d'autres communes et collectivités territoriales sont stables. Voilà. Le produit des loyers devrait rester stable augmenter légèrement. Et la taxe additionnelle sur les droits de mutation sera stable à 224 000 euros. Et donc, on aura des recettes de fonctionnement qui seront à un peu moins de 5,6 millions d'euros. La section d'investissement, maintenant. Donc, les dépenses d'investissement, le chantier de requalification du bâti et de l'espace urbain de l'entrée de ville en sera la pièce maîtresse, tout d'abord par les restes à réaliser de l'exercice 2019, à peu près 433 000 euros pour les travaux sur le bâti, auxquels on ajoute les travaux de ferronnerie sur le bâti et ses abords, à peu près un peu plus de 36 000 euros, la réalisation d'une fontaine, 21 800 euros, l'aménagement urbain et paysager, 420 000 euros, c'est une estimation. Les marchés publics devraient, vu la tendance du marché, nous donner plutôt de bonnes surprises sur les travaux qui feront l'objet de marché cette année. La maîtrise d'œuvre pour l'aménagement intérieur des futurs logements au sein de ce bâti et de l'aménagement de la maison des vins et des produits terroirs et l'aménagement de la maison des vins et des produits terroirs est également prévu au budget primitif, 44 500 pour la maîtrise d'œuvre et 50 000 euros pour l'aménagement de la maison des vins et des produits du terroir. Et l'aménagement des logements sera inscrit lors d'une décision modificative ou sur le BP 2021 selon l'avancement des travaux et selon l'arrivée de nouvelles subventions, puisque la crise du Covid a fait que tous les travaux sur ce secteur ont été retardés de 2 mois. Parmi les autres dépenses d'investissement à prévoir en 2020, la participation année 1 de la commune à la construction de la caserne des pompiers Camaret-Sérignan. En reste à réaliser 2019 la deuxième part communale pour le rond-point de la RD 43, 71 000 euros. La remise aux normes de bornes à incendie, 25 000 euros. La réfection, toiture, isolation, éclairage, VMC et climatisation, dont la maîtrise d'œuvre et le diagnostic et les diagnostics pour ces travaux, 171 000 euros. Acquisition d'un terrain grande rue, frais inclus, 10 000 euros. Rénovation d'un logement aux Amandiers, 7 000 euros. Mise en conformité électrique des alarmes, de l'électricité et des alarmes de l'espace René Roussière et du foot, 27 500 euros. L'aménagement d'un cabinet médical avenue Fernand Gonnet pour le médecin qui va s'installer début juillet, 15 000 euros. Renouvellement de matériel informatique et des logiciels, 21 000 euros. divers mobiliers matériels et matériels 43 000 euros, reprise de voirie et de signalisation 34 000 euros, éclairage public 41 000 euros. On note aussi le montant prévisible de l'annuité en capital de la dette, 170 000 euros. Donc les dépenses réelles d'investissement inscrites au budget primitif 2020 devraient s'élever à un peu plus de 2 millions d'euros. Voilà, c'est le budget d'investissement le plus important depuis 2014. Le plus important jusque-là était 2016, qui était légèrement en deçà des 2 millions d'euros. Là, on sera au-dessus des 2 millions d'euros. De plus, un nombre important de subventions va être demandé, certaines feront partie de l'ordre du jour de ce Conseil, ou seront demandées lors de prochaines sessions du Conseil. Donc à chaque fois que des subventions rentreront, on créditera les dépenses d'investissement. Les recettes, justement, donc ressources propres de la commune par l'affectation des résultats de 402 000 euros de fonctionnement, d'excédent de fonctionnement, et de 484 000 euros, un peu moins, d'excédent de fonctionnement. La taxe d'aménagement qu'on estime à 60 000 euros, même si l'année dernière on a eu 70 000, on reste prudent. Le FCTVA, compensation de la TVA, 115 000 euros. La subvention du département au titre de la contractualisation, qui devrait être de la première, de 109 000 euros à minima. La participation de la CCAOP aux travaux d'aménagement du bâti d'entrée de ville, et notamment de la Maison des Vins et des produits du terroir, 98 500 euros. Le protocole d'accord suite au sinistre sur la charpente de la bibliothèque de l'école Mistral, 77 000 euros. Diverses opérations d'ordre entre sections pour un montant de 193 000 euros. Et le virement de la section de fonctionnement suite à l'équilibre du budget primitif de fonctionnement de un peu plus de 87 000 euros. Vous avez également, page 13 de la note sur le DOB, l'analyse de la dette. Donc, je ne vais pas vous faire lecture du tableau. On est aujourd'hui, avec les chiffres en notre possession, à 440 euros par habitant d'endettement. La moyenne de la strate étant de 762 euros. Et notre capacité de désendettement est de 4,6 ans. On est pile poil dans la moyenne de la strate, qui est de 4,6 ans. Voilà. Merci.
Merci. Y a-t-il une intervention ? Pas d'intervention pour le moment. Alors, vous savez que nous allons procéder à un vote, alors qu'avant il n'y avait pas de vote pour le DOB, mais en fait il s'agit simplement de prendre acte de la tenue de ce débat et de prendre acte du rapport sur la base duquel le débat s'est tenu. Donc c'est donc un vote technique. Il ne s'agit en aucun cas d'une approbation des orientations budgétaires de la commune. Donc toujours pas de questions, pas de remarques. Alors je mets aux voix pour prendre acte. Qui est contre ? Le groupe de Mme Thibault. Qui s'abstient ? Adopté à la majorité. Je vous en remercie. Rapport numéro 2, approbation du compte de gestion 2019, budget principal, rapporteur Liliane Diaz.
Le receveur principal a transmis le compte de gestion de la commune pour l'exercice 2019. Ce compte de gestion, avec lequel le compte administratif de la commune se trouve en concordance, établit les résultats globaux suivants. En budget principal, les recettes excédents reportés de 526 793, ce qui fait un total de 526 793, en réalisation, en investissement, 1 058 296 et en fonctionnement, 5 630 194, ce qui fait un total de 6 688 491. En dépenses, pas de déficit, réalisation, en investissement, 1 101 247, en fonctionnement, 5 227 950, ce qui fait un total de 6 329 198. Le résultat propre de l'exercice, en investissement, moins 42 950, en fonctionnement, plus 402 243, ce qui fait un total de 359 292. Donc un résultat de clôture de plus 483 843 en investissement et en fonctionnement 402 243, ce qui fait un total de 886 086. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L1612-12 et L2121-31, vu le compte de gestion de la commune pour l'exercice 2019, présenté par le receveur municipal, il est demandé au conseil municipal d'approuver le compte de gestion de la commune pour l'exercice 2019, établi par M. le trésorier principal, comptable de la commune, et qui fait ressortir les résultats de clôture suivants. Section de fonctionnement, excédent de 402 243,36. Section d'investissement, excédent de 483 843,04.
Très bien. Y a-t-il une intervention ? Alors, je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Le groupe de Mme Thibault, adopté à la majorité. Je vous en remercie. Et nous passons au rapport numéro 3, approbation du compte administratif 2019, budget principal, rapporteur Liliane Diaz, et vote pour lequel, et débat pour lequel je suis obligé de m'absenter.
Bien. Compte administratif 2019, budget principal. Le compte administratif de l'exercice 2019 retrace l'exécution du budget de l'année écoulée et fait apparaître les réalisations et résultats suivants dans la clôture de l'exercice. Alors, budget principal en réalisation, section de fonctionnement en recettes 5 630 194, en dépenses 5 227 950. Résultat de l'exercice 402 243. Résultat reporté, il n'y en a pas. Résultat de clôture 402 243. En section d'investissement, en recettes 1 058 296, en dépenses 1 101 247. Résultat de l'exercice moins 42 950. C'est un résultat reporté de 526 793, ce qui donne un résultat de clôture de 483 843. La section de fonctionnement présente pour l'exercice 2019 un résultat de clôture excédentaire de 402 243. La section d'investissement présente pour l'exercice 2019 un résultat de clôture excédentaire de 483 843. Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L1612-12, L2121-14 et L2121-31, vu le compte de gestion de l'exercice budgétaire 2019 établi par le trésorier principal comptable de la commune et retraçant le résultat de clôture de l'exercice budgétaire 2019, considérant que le compte administratif du budget principal 2019 qui retrace les résultats de clôture de l'exercice budgétaire 2019 est conforme au compte de gestion 2019, vu l'avis de la commission des finances réunie le 15 juin 2020, il est demandé au conseil municipal d'approuver le compte administratif du budget principal de l'exercice 2019 établi par l'ordonnateur de la commune et qui fait ressortir les résultats de clôture suivants. Section de fonctionnement, excédent de 402 243,36. Section d'investissement, excédent de 483 843,04. Qui est contre ? Oui, je vais trop vite. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui.
Oui. Donc, si on reprend, donc effectivement, c'est un peu DOB, on reprend le DOB sur le compte administratif. Donc, j'ai quelques questions. J'avais posé des questions lors de la commission des finances où je voulais connaître le montant suite à l'externalisation donc du nettoyage des écoles primaires, donc Mistral et Amandier. Donc j'espère que je vais avoir la réponse là. Voilà, déjà une première question, si vous pouvez me répondre, Madame Diaz.
Donc sur le...
Non, vas-y. Je t'en prie. Je préfère. Vas-y.
Donc le coût annuel du nouveau marché d'entretien des écoles est désormais de 56 131,80 euros par an. Pour mémoire, avant externalisation, l'entretien par des agents municipaux coûtait près de 100 000 euros, puisque la dernière année complète d'entretien par les agents municipaux, 2016, on avait 99 871 euros de dépenses de personnel et de produits d'entretien pour le ménage interne, puisque désormais, à la fois, on n'a plus le personnel et les produits d'entretien sont pris en charge par la société prestataire de services.
Oui, donc malgré cela, on observe quand même une augmentation sérieuse des charges de personnel depuis 2014, hein, parce qu'en 2014, on était à 2 700 000. Et là, vous annoncez donc en budget prévisionnel 3 250 000 donc, sur le 0,12, ce qui fait depuis 2014 quand même une augmentation de 550 000 euros sur le 0,12, donc, ce qui est quand même conséquent alors que vous étiez engagé à maîtriser, voire diminuer les charges de personnel. Effectivement, on peut évoquer le régime indemnitaire, le passage du CNAS. Enfin, ça fait pas une augmentation de 2019 sur l'exercice 2019 prévisionnel 2020 plus 230 000 et par rapport à 2014, c'est 550 000 euros. Donc, là, on se pose des questions là-dessus. Voilà sur la partie donc 0,12. Et puis en plus, si on rajoute donc l'externalisation du nettoyage, donc on rajoute encore 56 000 euros. Effectivement, ça n'apparaît plus sur le 0,12, ça apparaît ailleurs. Donc ça fait un peu moins pour vous, pour annoncer au Camaretois. Ensuite, je voulais simplement revenir sur... Oui, en plus, d'autant plus que vous annoncez sur les orientations 2020 une prévision large. Alors, moi, je ne connais pas de prévision large. Quand on fait un budget, on fait un budget, ce qu'on appelle un budget sincère. Si c'est pour annoncer à la fin de l'année une économie sur les charges de personnel, je trouve ça quand même un petit peu moyen, hein, en termes de communication. Moi, je voudrais connaître, alors on y viendra après, sur, peut-être sur la délibération concernant les subventions. Je reviens sur les dépenses de fonctionnement. Donc, vous avez eu encore un problème de fuite d'eau au niveau de l'école Mistral, qui représente, vous m'avez dit, 40 000 euros, c'est ça. Donc, vous êtes...
Oui, c'est ouais, ça.
Vous devenez de grands spécialistes des fuites, alors, si je comprends bien. Ensuite, oui, je reviens sur le personnel, d'autant plus que sur le document de valorisation financière et fiscale, donc validé par le Trésor public, Trésorerie d'Orange, sur les dépenses de fonctionnement, quand on voit les repères et charges de personnel, donc pour la commune, c'est par habitant 631 euros. La moyenne du département, c'est 432 euros pour les communes de la même strate, hein. Pour la région, c'est 587 euros et au niveau national, 441 euros. Donc je pense qu'il y a quand même des petites choses à voir. Je parle, moi, des emplois qui ne sont pas liés directement au service public. Voilà ce que je voulais vous dire. Et au niveau, donc, c'est un peu brouillon parce que j'ai eu ces documents là un peu tardivement. Et on voit qu'au niveau donc des dépenses d'eau, énergie, donc on est toujours sur des chiffres quand même assez élevés malgré ce que vous aviez annoncé où vous aviez fait des économies conséquentes. Et je vois que vous n'échappez pas à vos prédécesseurs à des problèmes de décalage de tarification qui font que évidemment il y a des années où les charges au niveau électricité et eau sont moindres et des années où c'est plus important. Donc il n'y a rien de nouveau là-dessus. Ah oui, il y a un truc qui m'intéresse assez sur les prévisions évolution des dépenses de fonctionnement. Vous avez prévu donc le renouvellement des pavoisements, c'est bien ça? Vous avez prévu une enveloppe pour les pavoisements. Alors on ose espérer que nous allons enfin voir au fronton des écoles des drapeaux européens dignes de ce nom, parce que je pense que les enfants n'ont pas à subir, je dirais, les orientations politiques de la majorité actuelle. Donc j'espère que je reverrai un jour le drapeau européen au niveau donc de la salle du conseil municipal ainsi qu'au niveau des écoles.
enfin, un drapeau européen d'une dimension égale au drapeau français et au drapeau de la région. Voilà, moi c'est sur le fonctionnement, c'est tout ce que j'avais à dire. Et concernant bon, évidemment, je parle de la section d'investissement, les dépenses. Donc, on constate que les dépenses sont simplement cette année donc sur le projet d'entrée de ville. On constate qu'il n'y a pas de projet de voirie, de remise en état de voirie communale. Donc, c'est un petit peu dommage et navrant, je dirais. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ce sont des remarques, hein, évidemment. Et c'est pour cela, vous comprendrez bien, qu'on ne validera pas donc le budget primitif. Tu voulais... Non, c'est bon.
Vous avez d'autres questions? Non? Non, moi ça vous, je vous demande si vous n'avez pas d'autres questions. Très bien. Alors, qui est contre? Le groupe de Mme Thibault. Qui s'abstient? Bien, adopté à la majorité. Merci.
Nous passons au rapport numéro 4, budget principal, affectation des résultats 2019, rapporteur Liliane Diaz.
Bien, en application de l'instruction budgétaire et comptable M14, il convient de décider de l'affectation de l'excédent brut de la section de fonctionnement constatée à la clôture de l'exercice 2019 du budget principal de notre commune. Le compte administratif de la commune pour l'année 2019 fait apparaître les résultats suivants. En budget principal, donc en réalisation, section de fonctionnement, recettes 5 630 194, dépenses 5 227 950, un résultat d'exercice de 402 243, ce qui fait un résultat de clôture de 402 243. En section d'investissement, en recettes 1 058 296, en dépenses 1 101 247, résultat de l'exercice moins 42 950, ce qui fait avec un résultat reporté de 526 793, ce qui fait un résultat de clôture de 483 843. Reste à réaliser en section d'investissement, en recettes 404 149, en dépenses 764 415, ce qui fait un résultat de clôture de moins 360 266. L'excédent brut de la section de fonctionnement constaté à la clôture de l'exercice 2019 du budget principal de la commune s'élève à 402 243. Vu le résultat de clôture excédentaire de la section d'investissement qui s'élève à 483 843, vu le solde des restes à réaliser qui s'élève à moins 360 266, vu l'avis de la commission des finances réunie le 15 juin, il est demandé au conseil municipal d'approuver l'affectation des résultats constatés à la clôture de l'exercice 2019 du budget principal comme suit. Affectation de l'excédent de la section de fonctionnement d'un montant de 402 243 en recettes d'investissement au compte 1068 et le résultat de clôture excédentaire de la section d'investissement d'un montant de 483 843 sera repris en recettes au compte 001 de la section d'investissement.
Merci. Y a-t-il des questions? Pas de questions, alors je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc contre Madame Thibault et Monsieur Savin. Adopté à la majorité. Dossier numéro 5, vote des taux des deux taxes locales directes, rapporteur Liliane Diaz.
Merci. Alors, vu les articles 1636B sexy et 1636B septi du Code général des impôts, vu les taux plafonds communaux 2020 ci-dessous, taxe sur le foncier bâti 57,70 et taxe sur le foncier non bâti 139,45, vu les taux moyens communaux de 2020 au niveau du département, taxe sur le foncier bâti 23,08, taxe sur le foncier non bâti 55,78, vu le projet de budget de la commune pour l'exercice 2020, notamment le produit fiscal nécessaire à l'équilibre du budget, vu l'avis de la Commission des finances réunie le 15 juin 2020, considérant les taux en vigueur en 2019 en tenant compte de la suppression du vote du produit de la taxe d'habitation sur l'exercice 2020, taux communal, taxe foncière bâtie 20,80, taxe foncière non bâtie 57,11. Il est proposé au Conseil municipal de maintenir les taux d'imposition des taxes directes locales en vigueur pour 2020. Il est donc demandé au Conseil municipal d'approuver les taux des deux taxes directes locales comme suit. Taxe sur le foncier bâti, 20,80%. Taxe sur le foncier non bâti, 57,11%.
Merci. Donc, stabilité des taux. Donc, pas d'augmentation de la pression fiscale à Camaret. Ça aussi, c'était un de nos engagements politiques que nous avons tenu envers et contre tout, malgré un certain nombre de charges qui n'étaient pas forcément prévisibles, quoique, en particulier la baisse des dotations de l'État, comme vous l'a rappelé tout à l'heure, monsieur le DGS, et l'augmentation en même temps, parallèlement, de la contribution au titre du FPIC, c'est-à-dire que des communes soi-disant riches sont obligées de payer comme un impôt pour des communes soi-disant pauvres. Pour Vaucluse, il ressort de ce dispositif totalement inique qu'une ville comme Camaret, dite riche, contribue pour une ville comme Avignon, dite pauvre. Pourquoi ? Parce que Avignon a sur son territoire des quartiers dits difficiles. Voilà, j'utilise beaucoup de précautions, vous l'aurez remarqué, mais enfin tout le monde sait à quoi je fais allusion. C'est quand même l'état de ce pays, c'est quand même ce qui se passe en France. Il y a un gros problème que l'on est incapable de gérer, si ce n'est en demandant aux communes et même aux petites communes rurales comme Camaret de payer chaque année davantage. J'espère qu'un jour les citoyens, les administrés en auront conscience et qu'ils y mettront fin par la voie démocratique. Voilà en ce qui concerne les taux des taxes locales. S'il y a des questions, une intervention, Madame Thibault.
Oui, vous dites qu'il n'y a pas d'augmentation fiscale, mais il y a quand même l'augmentation des bases d'impôts qui n'est pas liée, qui n'est pas du fait de la commune. Mais ça représente combien l'augmentation de la base en termes de rentrée fiscale pour la collectivité de Camaret ?
Là, comme on le disait tout à l'heure, l'augmentation se situe toujours aux alentours de entre 18 et 22 000 euros. Cette année, on a estimé avec le calcul de la feuille que nous donne la DGFiP qu'elle serait, comme je l'ai dit dans le débat d'orientation budgétaire, d'à peu près 20 000 euros. Yeah.
Cela dit, certes, ça ne ressort pas des décisions de la commune, mais cela quand même traduit, cela reflète l'attractivité de la commune. Si beaucoup de gens viennent s'installer à Camaret et donc augmentent les bases fiscales, ça veut dire que la commune est attractive. Et quelque part, la commune, la municipalité n'y est pas étrangère. Alors, je mets aux voix, qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Dossier numéro 6, adoption du budget principal 2020, rapporteur Liliane Diaz.
Budget principal 2020. Vu le débat d'orientation budgétaire du 17 juin 2020, vu l'examen en commission des finances du 15 juin 2020, vu la reprise des résultats de l'exercice 2019, vu la décision relative au taux des taxes directes locales pour l'année 2020, considérant que le budget primitif 2020 se présente équilibré en dépenses et en recettes dans les deux sections de fonctionnement et d'investissement comme suit. Section de fonctionnement 5 603 946,11, section d'investissement 2 042 955,90. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver le budget primitif 2020 de la commune de Camaret-sur-Aigle.
Alors, je vais passer la parole à monsieur. Non, c'est bon, on a dit lors du DOB ce que nous allions faire en termes de budget principal, puisque on a les deux délibérations le même jour. Donc, y a-t-il d'autres questions ou d'autres remarques? Il semblerait que non. Alors, moi, j'en profiterai tout de même pour répondre. Puisque vous êtes intervenu lorsque j'étais sorti de la salle, à ce qui a été dit, peut-être, par vous-même, Madame Thibault, en particulier, vous avez pointé l'augmentation des dépenses de personnel. Il faut quand même être juste, il faut quand même être équitable, objectif. Il y a un certain nombre de ces dépenses qui découlent, d'une manière ou d'une autre, de l'évolution législative. Il y en a plusieurs, hein, mais il y a celles qui sont de toute façon liées aux avancements de grade, aux progressions de tous les agents dans leur carrière. Ça, c'est une augmentation automatique des dépenses de personnel. Vous avez aussi, par exemple, des cadres B à une certaine époque sur le plan légal, avec un changement de la loi, ils passent cadre A. On a un certain nombre de cas sur la commune de Camaret. Là aussi, ça contribue à l'augmentation des dépenses de personnel qui n'incombent pas directement aux décisions de la municipalité. Vous avez un certain nombre de dépenses aussi qui sont complètement conjoncturelles et non pas structurelles. Cela a été dit tout à l'heure. Le quatrième policier municipal qui, certes, est une décision politique, et donc il contribue, je l'admets bien volontiers, à l'augmentation du budget des dépenses de personnel. Mais tout dernièrement, ce quatrième policier municipal n'était pas rétribué sur une année complète, d'où un effet d'augmentation, mais qui est encore une fois une augmentation tout à fait conjoncturelle. En fait, il faut, au niveau des dépenses de personnel, il faut voir sur la durée quelle est la révolution sur plusieurs exercices budgétaires, voir quelles sont les interventions législatives qui ont modifié donc le volume de ces dépenses. Et en ce qui nous concerne, nous, mairie de Camaret, ben, on était souvent concernés par ces innovations législatives. Nous avons aussi, et c'est un choix politique qui a été fait, mis en place une prime de fin d'année. On n'a pas du tout été une exception, hein, sur le Vaucluse ou par rapport à des communes de même strate. Beaucoup ont mis en œuvre ce dispositif en espérant quelque part une amélioration du service rendu, au public. Donc voilà, ça fait aussi un certain budget. Augmentation conjoncturelle là aussi, bien, qui tient par exemple à ce qui s'est passé tout dernièrement ces dernières semaines et ces derniers mois avec le Covid. On parlera tout à l'heure de la prime Covid. Ben voilà, il y a tout un certain nombre de dispositifs ou de circonstances qui font que les charges de personnel augmentent, mais ce n'est pas forcément toujours du fait de décisions de l'équipe municipale. En ce qui concerne les dépenses de voirie, nous sommes, vous avez entendu dire que pour notre budget prévisionnel, tout était concentré sur l'entrée de ville. Je crois que ce n'est pas tout à fait exact. On a un certain nombre de dépenses en matière de voirie qui sont prévues, qui ne concernent pas l'entrée de ville, par exemple au chemin de Vaqueras, et il y en a quelques autres. Là encore, nous sommes dans un budget prévisionnel et on fera le bilan lors du prochain compte administratif qui aura retracé toutes les dépenses qui auront été réalisées en matière de voirie communale. Et puis, encore une fois, c'est pas pour glorifier notre action, mais il faut rappeler que, globalement, nous avons un excédent de près de 900 000 euros que beaucoup de communes pourraient nous envier. Voilà. Donc, au niveau du budget, tout a été dit, donc je pense que nous pouvons passer au vote. Qui est contre ? Madame Thibault et Monsieur Savin. Qui s'abstient ? Adopté à la majorité et je vous en remercie. Dossier numéro 7, attribution d'une subvention au CCAS de Camaret, rapporteur René Sauverin.
Vu le budget 2020, fonctionne. Bon, vu le budget 2020 du CCAS de Camaret-sur-Aigue, vu l'avis de la commission des finances du 15 juin 2020 relatif à l'attribution d'une subvention de 73 237 euros au CCAS de Camaret, vu le budget de la commune pour l'exercice budgétaire 2020 et notamment l'article 65, 73 et 62 de la section de fonctionnement, il est demandé au conseil municipal d'approuver l'attribution d'une subvention 2020 de 73 237,64 euros au CCAS de Camaret sur Aigue, d'imputer les sommes relatives à cette subvention à l'article budgétaire 657-362 de la section de fonctionnement.
Merci. Y a-t-il des questions ? Pas de questions. Alors, je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Dossier numéro 8. Attribution de subventions aux associations et autres organismes. Rapporteur Jean-Michel Marlot.
Vu le budget primitif de la commune de Camaret-sur-Aigue pour l'exercice budgétaire 2020, vu les demandes de subventions faites par différentes associations ou organismes pour l'année 2020, vu l'avis de la commission des finances réunie le 15 juin 2020, il est demandé au conseil municipal d'attribuer les subventions suivantes, fonctionnement et exceptionnel, conformément au tableau récapitulatif annexe, association sportive, association culturelle, association enfants scolaires, association ou organismes divers. Les sommes relatives à ces subventions seront imputées à l'article budgétaire 6574 de la section de fonctionnement du budget 2020 de la commune de Camaret-sur-Aigue pour un montant total de 94 185 euros.
Merci. Y a-t-il une intervention ? Madame Thibault.
Oui, simplement, je ne prendrai pas part au vote concernant les subventions attribuées à Cinéra-Velin, parce que je fais partie du conseil d'administration, ainsi que Mireille Zandominiki, pour qui j'ai la procuration et qui est au conseil d'administration. Voilà.
Oui, et effectivement, monsieur Savin.
Également
pour le CATM, il y a d'autres élus de la majorité qui sont concernés parce que président ou membre du bureau d'association et donc qui ne prendront pas part au vote. Ce sera noté au procès verbal.
J'avais une autre question, si vous permettez. Concernant les demandes de subventions, effectivement, il y a les mêmes subventions qui avaient été accordées en 2019 et notamment des participations aux associations concernant des manifestations qui ont lieu au moment de la fête votive ou des manifestations qui ont été annulées par rapport à la crise sanitaire. Donc vous maintenez ces subventions-là qui sont souvent des subventions exceptionnelles. Voilà, c'est la question que je voulais poser.
La question est pertinente. On s'est posé la question, compte tenu de l'annulation, bien entendu, de certaines manifestations, mais on s'est dit qu'on allait faire le bilan un petit peu plus tard, parce qu'en réalité, c'est vrai que l'annulation de certaines festivités a pu éviter à certaines associations de faire des dépenses, mais ça peut aussi occasionner un gros déficit en recettes. Et là, ça, on le saura un petit peu plus tard. Je prends l'exemple, enfin, vous avez cité la fête votive, mais il y a même certains gros lotos qui ont été impactés par le virus. Donc, pour les associations, ce sont des recettes, certaines très importantes. Je pense au loto du foot du mois d'octobre, dont on espère qu'il pourra avoir lieu, mais voilà, on est un petit peu toujours dans le flou au niveau sanitaire. Donc, on est aussi dans le flou au niveau financier. Et donc, on préfère prendre le temps de faire le bilan de ce que les associations auront gagné ou auront perdu suite à la crise du Covid. Donc c'est pour ça qu'on maintient le même niveau de subvention que l'année dernière.
Oui, chose que nous approuvons, bien sûr.
Très bien, c'est noté. Donc, sous réserve des non-participations au vote, je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Dossier numéro 9. Organisation de gestion de l'enseignement catholique, OGEC, convention concernant la contribution de fonctionnement de l'école Saint-Andéol, rapporteur Sylvette Gilles.
Le financement des classes élémentaires publiques et privées est une dépense obligatoire des communes. Il est proposé une nouvelle convention avec l'organisme de gestion de l'enseignement catholique, l'OGEC, afin de définir les conditions de financement des dépenses de fonctionnement des classes élémentaires et maternelles de l'école Saint-Andéol par la commune de Camaret-sur-Aigle. Le financement des classes élémentaires est réglementé, ainsi que, désormais, celui des classes de maternelle. La présente convention fixe un forfait par élève égal au coût moyen par élève constaté dans les écoles publiques élémentaires et maternelles de Camaret, École primaire Frédéric Mistral et les Amandiers, et école maternelle La Soleil à deux. Ce forfait est établi à partir des dépenses relevées dans le compte administratif N-1 de la commune. Le montant du forfait communal versé annuellement par la commune est aligné sur l'évolution du coût moyen de l'élève du public, maternel et élémentaire, multiplié par le nombre d'élèves de l'école Saint-Andéol, âgés de plus de 3 ans, présents à la rentrée scolaire et dont la résidence se situe sur la commune de Camaret. Le montant de ce forfait fait l'objet d'une révision annuelle. Pour l'exercice 2020, il est calculé comme suit. Une dépense par élève, 2019, 1 euro. Pour Mistral, 571,15 €. Pour les Amandiers, 600,41 €. Ce qui donne une moyenne pour les primaires de 585,78 €. Et pour la maternelle, 1896,66 €. Le nombre d'élèves âgés de plus de 3 ans, dont la résidence se situe sur le territoire de la commune de Camaret, scolarisés à l'école élémentaire Saint-Andéol durant l'année scolaire 2019-2020, 102 élèves, dont 39 en maternelle et 63 en primaire. Le montant brut s'élève donc à 1896,66 € multiplié par 39, pour la maternelle, les 585,78 € multiplié par 63 pour les primaires, ce qui donne 73 969,74 € plus 36 904,28 € pour un montant total de 110 874,02 €. Il convient cependant de tenir compte des aides et participations humaines et matérielles que la commune met en œuvre chaque année au profit de l'école Saint-Andéol et qui sont détaillées dans la convention annexée. À ce titre, et compte tenu de ces contributions, il est convenu de pondérer à 60 000 € la subvention pour l'année 2020. Vu les articles L212-8, L442-9 et R442-44 du Code de l'éducation, vu la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, vu le décret 60-389 du 22 avril 1960 modifié, et notamment l'article 7, vu la circulaire 2007-142 du 27 août 2007, vu le contrat d'association du 10 mars 1989 passé entre l'État et l'école privée Saint-Andéol de Camaret, ainsi que l'avenant du 27 juin 2007, vu les sommes allouées aux écoles publiques de Camaret pour l'année civile 2019, vu les effectifs des écoles publiques de Camaret pour l'année scolaire 2019-2020, Vu les effectifs de l'école privée Saint-Andéol, vu le budget 2020 de la commune, vu l'avis de la commission des finances réunie le 15 juin 2020, il est demandé au conseil municipal d'approuver la convention concernant la contribution de fonctionnement à l'OGEC, d'autoriser M. le maire à signer ladite convention ainsi que tout document y afférent, d'allouer une contribution de fonctionnement d'un montant de 60 000 euros à l'OGEC au titre de l'année 2020, de dire que cette somme est imputée à l'article 65-58 de la section de fonctionnement du budget principal de la commune. Et vous avez la convention annexée.
Merci. Y a-t-il une intervention ? Alors, je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Dossier numéro 10, bilan annuel des acquisitions et cessions immobilières, année 2019, rapporteur Christine Winkelmann.
Conformément à l'article 11 de la loi 95-127 du 8 février 1995, modifié par l'ordonnance 2006-460 du 21 avril 2006, le bilan 2019 des caisses des acquisitions et des cessions immobilières a été dressé. Il se caractérise par l'acquisition de deux parcelles cadastrées section AD-426 et AD-448, situées à Camaret-sur-Aigle, rue Buisseron, chemin Jean Moulin. Ancien propriétaire, société Terre de Soleil, représentée par M. Stéphane Lucenet, acte notarié en date du en cours. Il est demandé au conseil municipal de prendre acte du bilan dressé ci-dessus dressé.
Merci. Y a-t-il des questions ?
C'est juste formalité.
Alors, je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Dossier numéro 11. Exercice du droit à l'information des conseillers municipaux. Rapporteur Antonio Muga.
Donc, je vous fais... Oui, donc je vous fais part du premier paragraphe. Vu l'article L2123-13 du Code général des collectivités territoriales, stipulant, indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heure prévues aux articles L2123-1, L2123-2 et L2123-4, les membres du conseil municipal, qui ont la qualité de salarié, ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à 18 jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection. Vu l'article L2123-14 du Code général des collectivités territoriales, les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent lieu à remboursement. Les pertes de revenus subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit de formation prévu par la présente section sont compensées par la commune dans la limite de 18 jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance. Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20% du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus de la commune. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de ces dispositions. Il est demandé au Conseil municipal de retenir les dispositions suivantes. La commune ne finance pas de formation au-delà de 18 jours par élu pour la durée du mandat. Elle compense la perte de revenus des élus pour une durée maximum de 18 jours pour la durée du mandat, à raison d'une fois et demie la valeur horaire du SMIC. Le montant des dépenses de formation annuelle est fixé à 5 000 euros. Le maire est chargé de mettre en place les modalités pratiques de la formation des élus dans le respect des orientations ci-après. Chaque élu aurait le choix du thème de la formation à condition que celui-ci, en application de l'article L2123-12 du Code général des collectivités territoriales, ait un rapport avec ses fonctions. De plus, l'article 2123-16 du même code fait obligation de faire appel ou de s'assurer des services d'un organisme de formation qui a fait l'objet d'un agrément par le ministère de l'Intérieur. Les conseillers municipaux souhaitant suivre une formation en font part en début d'année au maire, en fonction des crédits disponibles, d'autres demandes peuvent être acceptées en cours d'année. Dans un souci de bonne intelligence, en cas de contestation, de concurrence ou de quelque problème que ce soit, la concertation entre le maire et les élus concernés sera systématiquement privilégiée, sachant toutefois que si plusieurs demandes se trouvent en concurrence, alors que des crédits ne sont pas suffisants pour les satisfaire toutes, faute d'entente, la priorité sera donnée aux élus qui n'auraient pas encore bénéficié de formation ou qui connaîtraient un déficit de stage de formation par rapport aux demandeurs. Dans la mesure du possible et afin de diminuer les coûts, l'organisation de stages collectifs de formation devra être étudiée en accord avec les élus concernés.
Merci. Y a-t-il une intervention, Madame Thibault?
Oui, Monsieur Muga, la formation concerne l'ensemble des élus du conseil municipal.
Oui.
La formation obligatoire, c'est pour dans les trois premiers mois, c'est pour les élus ayant reçu une délégation.
Tout à fait.
Ok, mais l'ensemble des élus peuvent faire une demande, y compris les élus d'opposition.
Tout à fait.
Parfait.
Alors, je mets aux voix, qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Dossier numéro 12, aménagement et acquisition pour gestion de crise, demande de subvention au titre du Fonds régional d'aménagement du territoire Covid-19. Dans le cadre de son plan d'urgence et de solidarité, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur s'est engagée à soutenir les projets d'investissement portés par les communes à travers le dispositif FRAT Covid-19. Fortement mobilisée pour faire face à cette crise inédite, la commune de Camaret a mis en place des mesures adaptées afin d'assurer la continuité et l'aménagement du service public. Ces actions se sont portées sur trois principaux points. Acquisition de matériel informatique et de logiciels afin d'assurer la continuité de service grâce au télétravail pour un montant de 10 505 €. Adaptation de lieux d'accueil du public en conformité avec les règles sanitaires pour un montant de 1 398 €. Aménagement d'un local communal afin d'y accueillir dans les normes sanitaires un nouveau médecin pour un montant total de 11 424 €. Considérant le coût non négligeable de ces travaux, Monsieur le maire propose de solliciter une subvention auprès de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur au titre du FRAT Covid-19. Considérant que la subvention au titre de ce programme peut s'élever à 50% du montant total hors taxe des travaux, avec un plafond de subvention ne pouvant dépasser 50 000 € hors taxe, vu le montant total des dépenses qui s'élève à 23 327 €, vu le plan de financement prévisionnel, donc région PACA 11 663 50 €, commune des Camarets 11 663 50 €. D'approuver, il est demandé au conseil municipal d'approuver ce plan de financement, que je ne vous répète pas, de solliciter auprès de la région, au titre du FRAT Covid-19, une subvention de 11 603,50 €, d'autoriser M. le maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. Pas d'intervention, je mets aux voix, qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Dossier numéro 13. Aménagement des bâtiments des services techniques, demande de subvention au titre du Fonds régional d'aménagement du territoire, donc le FRAT, rapporteur Hervé Aurillac. Mais avant de passer la parole à Hervé Aurillac, je vous prie de bien vouloir noter qu'il y a une petite coquille à la fin de cette page là, du rapport de présentation. Lorsque nous disons de solliciter auprès de la région au titre du FRAT 2020 une subvention de 11 061,60 €, en fait c'est 12 017,10 €. Voilà, Monsieur Aurillac, vous avez la parole.
Merci, Monsieur le maire. La commune de Camaret-sur-Aigle souhaite aménager les locaux et lieux de vie de ses services techniques. Ce projet répond à un double objectif. Permettre aux agents des services techniques de travailler dans des locaux adaptés, répondant aux normes d'hygiène et de sécurité au travail. Améliorer le bilan thermique et énergétique des bâtiments et favoriser les économies d'énergie. Ces aménagements consisteront donc à l'installation de structures modulaires de haute qualité au sein et au droit des bâtiments existants après travaux d'adaptation préalables. Vu le chiffrage de cette opération portant le montant estimatif à 40 057 € hors taxe, Considérant le coût non négligeable de ce projet, M. le maire propose de solliciter pour ce projet une subvention auprès de la région Sud-Provence au titre du Fonds régional d'aménagement du territoire, le FRAD 2020. Considérant que la subvention au titre du FRAD PACA peut s'élever à 30% du montant total hors taxe des travaux, avec un plafond de subvention ne pouvant dépasser 200 000 euros hors taxe, soit une subvention maximum de 12 017,10 € pour ce projet. Vu le plan de financement prévisionnel de l'opération, qui est estimé hors taxe à 40 057 €, le FRAD donc à 12 017 €, commune de Camaré 28 039,90 €, et donc il est demandé au conseil municipal d'approuver le plan de financement prévisionnel ci-dessous, de 40 000 donc pour le montant des travaux, 12 000 pour le FRAT et 28 000, de solliciter auprès de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur au titre du Fonds régional d'aménagement du territoire une subvention de 12 017,10 € et d'autoriser M. le maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier.
Merci. Y a-t-il une intervention ? Alors, je passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Dossier 14. Relais parents assistantes maternelles. Nouvelle convention de partenariat intercommune. Rapporteur Isabelle Latard.
Le contrat enfance-jeunesse CEJ 2016-2019, signé entre la Caisse d'allocations familiales, la Mutualité sociale agricole et la commune de Camaré-sur-Aigle, intégrer un relais assistance maternelle sur la commune, le RAM. Le diagnostic établi sur l'ensemble du territoire intercommunal à l'occasion du projet de convention territoriale globale CTG 2020-2023 en cours d'élaboration fait ressortir le besoin toujours actuel de déployer ce service sur une partie du territoire de la communauté de communes Aigues-Ouvèze en Provence. Une convention ayant pour objet de définir la modalité d'organisation et de financement du RAM communal a été approuvée en séance du Conseil municipal en date du 27 mai 2010. Une convention de partenariat entre les communes intéressées a été signée le 27 mars 2013 pour une application prévue jusqu'au 31 décembre 2015 et renouvelée en date du 18 juillet 2016. En accord avec les partenaires CAF et MSA, les représentants des communes au comité de pilotage RAM des 14 novembre 2019 et 13 février 2020 ont validé les projets pour les années à venir. La convention précise le fonctionnement du RAM pluricommunal et les modalités de permanence sur les communes extérieures, ainsi que les modifications nécessaires en ce qui concerne le quorum et la représentation des différentes communes membres au sein du comité de pilotage RAM. La convention de partenariat prévoit en outre de maintenir le comité RAM chargé de suivre son fonctionnement, évaluer les actions et en fixer le budget. La commune de Camaré-sur-Aigle demeure commune coordinatrice. Chaque commune est appelée à participer financièrement au fonctionnement du relais selon la règle de proratisation fixée comme suit. La commune de Camaré-sur-Aigle perçoit la prestation de service ordinaire RAM et la prestation de service du futur CTG. Une fois ces prestations déduites, il reste à la charge et réparti entre toutes les communes en fonction du nombre d'assistantes maternelles agréées par le conseil départemental. Un bilan d'exercice est établi annuellement. Il convient par conséquent de prendre en considération ces nouveaux éléments et de présenter une convention actualisée. Vu le budget prévisionnel 2020, vu le projet de convention, il est demandé au conseil municipal d'approuver la convention de partenariat telle qu'annexée, d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document afférent à ce dossier.
Merci. Y a-t-il une question, une intervention ? Je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Dossier numéro 15, désignation des délégués dans les organismes extérieurs. Alors je vous propose une chose, c'est de voter à la fois pour nos représentants à ces divers organismes extérieurs que sont le RAO, le syndicat d'électrification vauclusienne et le syndicat mixte forestier. Alors, en ce qui concerne le RAO, je propose en titulaire Hervé Aurillac et Patrick Farr et en suppléant Raymond Carrazi et Patricia Roche. Y a-t-il d'autres candidatures ? Madame Thibault, vous avez la parole.
Oui, je proposais Monsieur Jean-Baptiste Savin en titulaire.
Donc là, on passe au vote successivement.
Non, mais c'est pas la peine. C'est pas la peine.
Bon. Le résultat. Non, parce que il n'y a rien contre la personne de M. Savin, mais non, pas du tout. Le souci, c'est qu'il y a peu de représentants, et bien entendu, nous préférons que ce soit des élus de la majorité qui siègent dans ces organismes, qui ont quand même beaucoup d'importance pour nos communes. Donc je suis là désolé, mais de toute façon nous allons proposer une liste et ce sont des gens de la majorité exclusivement, il n'y a que deux postes de titulaires. Alors qui est contre cette liste que je viens d'énoncer? Qui s'abstient? Madame Thibault, Monsieur Savin, élu à la majorité pour le RAO. Donc Hervé Aurillac, Patrick Farr, titulaire, Raymond Carrazi, Patricia Roche, suppléant. Pour le syndicat d'électrification vauclusienne, je propose comme titulaire M. Hervé Aurillac et comme suppléant M. Raymond Carrazi. Qui est contre? Qui s'abstient? Madame Thibault et M. Savin, élus à la majorité. Pour le syndicat mixte forestier, je propose comme titulaire Hervé Aurillac et comme suppléant M. Raymond Carrazi. Qui est contre? Qui s'abstient? Madame Thibault et M. Savin, élus à la majorité. Dossier numéro 16, création de la commission de travaux, voirie, espaces verts et bâtiments, puis nomination des membres. Conformément à l'article L2121-22 du Code général des collectivités territoriales, permettant au Conseil municipal de constituer des commissions municipales chargées de l'étude et de l'instruction des dossiers à soumettre au Conseil municipal, ces commissions sont convoquées par le maire, qui en est président de droit, dans les 8 jours qui suivent leur nomination ou à plus bref délai, sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut le convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché. Considérant que pour les communes de plus de 3500 habitants, la composition des différentes commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'Assemblée communale, le Conseil municipal fixe le nombre de conseillers siégeant dans chaque commission et désigne ceux qui y siégeront. La désignation des membres des commissions est effectuée au scrutin secret, sauf si on décide de le faire à main levée. Voici les listes proposées pour faire partie de cette commission municipale. Oui, l'exposé du maire indiquant que le nombre des membres de chaque commission pourrait être fixé à 8, afin que celle-ci puisse fonctionner correctement et remplir pleinement leur rôle, et précisant que le maire est président de droit. Il est donc demandé au conseil municipal de créer la commission municipale suivante et d'en élire les membres à hauteur de 8 conseillers, selon les listes de candidats proposés. Donc c'est une commission relative aux travaux, à la voirie, aux espaces verts et aux bâtiments, pour laquelle, au nom de la majorité, je propose les élus suivants: Hervé Aurillac, Raymond Carrazi, Elvire Théouki, Jean-Michel Marlot, Christine Winkelmann, Sylvain Gilles, Antonio Muga. Et je propose, bien enfin, je propose non, selon la réglementation de la proportionnelle, l'opposition a droit à un élu.
Oui, Mireille Zandomenighi.
Mireille Zandomenighi, d'accord. Donc si vous en êtes d'accord, on vote à main levée pour cette liste complétée par Mireille Zandomenighi. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Proposition des commissaires titulaires et suppléants pour la commission communale des impôts directs. Conformément à l'article 1650 du Code général des impôts, dans chaque commune de plus de 2000 habitants, il est institué une commission communale des impôts directs composée de 9 membres, le maire ou l'adjoint délégué, président et 8 commissaires titulaires. Les commissaires ainsi que leurs suppléants au nombre égal sont désignés par le directeur départemental des finances publiques sur une liste de contribuables en nombre double dressée par le conseil municipal. La désignation des commissaires et de leurs suppléants est effectuée de manière que les personnes respectivement imposées à la taxe foncière, à la taxe d'habitation et à la cotisation foncière des entreprises soient équitablement représentées. Ils doivent être de nationalité française ou ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, être âgés de 18 ans au moins, jouir de leurs droits civils, être inscrits au rôle des impositions directes locales dans la commune, être familiarisés avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour les exécution des travaux confiés à la commission. Un des commissaires doit être domicilié en dehors de la commune, la durée du mandat des membres de la commission est la même que celle du mandat du conseil municipal. Il est donc demandé au conseil municipal de proposer 16 commissaires titulaires et 16 commissaires suppléants. Cette liste sera soumise à la Direction générale des services fiscaux de Vaucluse, qui procédera ensuite à la nomination des membres de la commission, à concurrence de 8 titulaires et 8 suppléants, en sus du maire président. Alors, ce que je vous propose, c'est de proposer à la Direction des services fiscaux tous les membres du conseil municipal, donc opposition y comprise, ainsi que 6 administrés, Monsieur Christophe Ancelin, Madame Marie Daladier, Monsieur André Sub, Madame Marie-Pauline Picard. Voilà. Madame Chantal Bergel et Madame Romaine Clément, que j'avais oublié. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce dispositif? Alors je mets aux voix, qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Dossier 18, désignation du correspondant défense. Dans le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L2121-33, vu les circulaires du 26 octobre 2001 et du 27 janvier 2004 relatives à la désignation d'un correspondant défense au sein de chaque conseil municipal, considérant la nécessité de nommer un correspondant défense pour la commune de Camaret, considérant que ce dernier aura vocation à sensibiliser les administrés de la commune aux questions de défense, à être l'interlocuteur privilégié en ce qui concerne le parcours de citoyenneté ou le devoir de mémoire, il est demandé au conseil municipal de désigner un conseiller municipal en tant que correspondant de défense de la commune, et je propose la candidature de M. Hervé Auriac. Qui est contre? Ouais, écoutez, ouais, c'est un peu pareil, il n'y a qu'un seul poste. On privilégie un représentant de la majorité. Vous auriez parfaitement fait l'affaire, puisque vous êtes un ancien de la maison. Donc, je mets aux voix, qui est contre, qui s'abstient, abstention de Mme Thibault et de M. Savin, élu à la majorité, désigné à la majorité. Dossier numéro 19, le comité de jumelage et conseil d'administration de l'association Le Cédric Olivier, désignation des membres délégués. Les jumelages entre communes des États membres de l'Union européenne sont régis sur le plan juridique par l'article L1115-1 du Code général des collectivités territoriales. L'initiative d'un jumelage appartient aux seules municipalités. La décision de jumelage est prise par délibération du conseil municipal qui autorise la passation de la convention. Cette dernière, qui constitue la base juridique du jumelage, peut se limiter à une déclaration d'intention ou au contraire désigner les actions spécifiques à mener. Par délibération en date du 19 mai 2008, le conseil municipal a décidé de déléguer son action de jumelage avec la commune de Travaco-Sicomario à un comité qui a la forme d'une association en loi 1901. Le comité de jumelage a tenu une assemblée générale constitutive le 6 mai 2008 et fonctionne depuis selon les règles habituelles. Assemblée générale, versement de cotisations. Par ailleurs, par délibération en date du 20 septembre 2018, le conseil municipal a décidé de déléguer son action de jumelage avec la commune de Ras-Balbec au Liban à l'association Le Cèdre et l'Olivier, faisant office de comité de jumelage, là encore sous forme association loi 1901. L'association a tenu une assemblée générale constitutive le 30 août 2018 qui a approuvé les statuts et désigné ses administrateurs. Suite à l'installation du nouveau conseil municipal le 28 mai 2020, il est nécessaire de renouveler les membres élus du comité, du bureau du comité de jumelage et au sein du conseil d'administration de l'association Le Cèdre Olivier. Il est donc demandé au conseil municipal de nommer 6 membres du conseil municipal pour le comité de jumelage Travacosica-Mario, de nommer 3 membres du conseil municipal pour le conseil d'administration de l'association Le Cèdre et l'Olivier. Alors, en ce qui concerne le comité de jumelage, donc là c'est Travacosica-Mario, je propose ma candidature, celle de Jean-Michel Marlot, d'Isabelle Lattard, de Liliane Diaz et de Patrick Farr, ainsi, si vous le souhaitez, qu'un membre de l'opposition.
Non, on va vous laisser avec les membres de la majorité.
En ce qui concerne le conseil municipal, le membre du conseil municipal pour le conseil d'administration de l'association Le Cèdre et l'Olivier, je propose les candidatures de Sylvette Gilles, René Sauvera, Jean-Luc Dacosta. Donc vous n'aurez pas de candidat non plus.
Pareil, on vous laisse ensemble.
Très bien, je vous en remercie. C'est en même temps un respect du vote des électeurs, quelque part. Donc, je mets aux voix, qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Dossier numéro 20, élection des administrateurs élus au sein du conseil d'administration du Centre communal d'action sociale, rapporteur René Sauvera.
Conformément aux articles R123-7 et suivant du Code de l'action sociale et des familles dès son renouvellement, le Conseil municipal procède dans un délai maximum de 2 mois à l'élection des nouveaux membres du Conseil d'administration du Centre communal d'action sociale. Vu la délibération N2020-DELIB-020 du 28 mai 2020 fixant à 5 le nombre d'administrateurs élus au sein du CCAS, du conseil d'administration du CCAS, il convient désormais de procéder à l'élection des membres élus au sein du conseil d'administration par le conseil municipal au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Alors là, je crois qu'il y a une coquille. Parce qu'il est marqué que le scrutin est secret. Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats, même incomplète.
On va faire comme pour les autres désignations. Si tout le monde est d'accord, on votera à main levée.
Dans l'hypothèse où le nombre de candidats figurant sur la liste est inférieur au nombre de sièges qui reviennent à celle-ci, le ou les sièges non pourvus le sont par les autres listes. Je pense que si on vote à main levée, la suite n'a plus trop d'importance. Donc je propose, il est demandé au conseil municipal de procéder à l'élection à main levée des représentants du conseil municipal au sein du conseil d'administration du CCAS. Si vous en êtes d'accord.
Alors là, je n'ai pas la bonne feuille. Ah, je l'ai retrouvé. Mille pardons. Alors, je propose donc pour ce conseil d'administration du CCAS les candidatures de René Sauvera, Patricia Roche, Isabelle Lattard, Francine Deneux et un élu pour l'opposition.
Oui, donc ma candidature.
Très bien. Donc, candidature de Madame Thibault. Donc, si vous en êtes d'accord, on ne procède pas à un vote à bulletin secret, mais on vote à main levée. Qui est contre? Qui s'abstient? Élu à l'unanimité, tout simplement. Dossier numéro 21. Comité technique, désignation du président du collège employeur, rapporteur Antonio Miga.
Comme précédemment, chers collègues, je vous fais part des premiers articles, du moins le listing des premiers articles. Donc, considérant que le comité technique paritaire est consulté pour avis préalable sur les questions relatives à l'organisation de la collectivité, les conditions générales de fonctionnement des services, les évolutions des administrations ayant un impact sur le personnel, les sujets d'ordre général intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail. Considérant la délibération du conseil municipal numéro 2018 délib 040 en date du 31 mai 2018 fixant à 5 le nombre de représentants titulaires du personnel et à 5 le nombre de représentants suppléants, instituant le paritarisme numérique, c'est-à-dire fixant le nombre de représentants de l'administration égal à celui des représentants du personnel titulaire et suppléant. Considérant que la durée du mandat des représentants du collège employeur est calée sur celle du mandat municipal. Considérant la mise en place du nouveau conseil municipal en date du 28 mai 2020, il est demandé au conseil municipal de désigner parmi les élus du conseil municipal le président du comité technique paritaire commun à la commune et au CSAS de Camaret-sur-Aigle, membre titulaire, d'autoriser M. le maire à signer tout document en ce sens. Le maire investi du pouvoir de nomination désignera par arrêté municipal les 5 représentants titulaires et 5 représentants suppléants afin de constituer le collège employeur du CTP commun à la commune et au CSAS de Camaret-sur-Aigle.
Très bien. Y a-t-il des questions ? Madame Thibault, excusez-moi.
Oui, je voulais poser la question concernant, donc c'est vous, monsieur le maire, qui allez donc nommer les, par arrêté municipal les 5 représentants titulaires et 5 représentants suppléants. Est-ce que vous avez l'intention de laisser la place à un élu de l'opposition ?
Comme lors du précédent mandat, oui.
Nous avions un poste de suppléant et effectivement, après, suite à un départ, on avait un poste de titulaire. Donc, moi, je voulais simplement poser la question.
Oui, oui. Mais
un poste de titulaire ou suppléant ?
Titulaire.
Titulaire. Et donc, suppléant. Vous aurez un titulaire et un suppléant.
Merci pour la réponse.
Je mets aux voix, qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité, dossier numéro 22, prime exceptionnelle de risque dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, période de confinement, rapporteur Antonio Mouga.
Vu l'article 11 de la loi numéro 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificatives, vu le décret 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l'État et de la fonction publique territoriale, soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Monsieur le maire propose le versement d'une prime exceptionnelle de risque pour les agents fonctionnaires et agents contractuels de droit public ayant exercé des missions à la demande expresse de l'autorité territoriale durant la période de confinement du 17 mars au vendredi 8 mai 2020. Ces agents ont permis d'assurer un service essentiel ne pouvant être accompli à distance qui a nécessité un contact régulier avec le public, une présence sur la voie publique, des manipulations d'objets ou matières à risque. Le montant de la prime sera modulable, notamment en fonction de la durée de la mobilisation et exposition des agents. Taux numéro 1, 660 euros. Pour les agents ayant eu un contact régulier avec le public, assuré une présence sur la voie publique ou ayant manipulé des objets ou matières à risque. Taux numéro 2, 330 euros. Pour les agents ayant eu de façon répétée mais occasionnelle ou dans des conditions encadrées, prise de rendez-vous préalable, un contact avec du public ou exercé une activité nécessitant la manipulation d'objets ou de matières à risque. La prime exceptionnelle fait l'objet d'un versement unique sous le traitement du mois de juillet 2020. Elle ne peut être reconduite. La prime exceptionnelle est exonérée d'impôt sur le revenu de cotisations et contributions sociales. Un arrêté individuel de l'autorité territoriale précisera à chaque bénéficiaire le montant et les modalités d'attribution. Il est demandé au conseil municipal d'intégrer au sein de la commune, à compter du 1er juillet 2020, conformément au décret numéro 2020-570 du 14 mai 2020, une prime exceptionnelle de risque dans le cadre de la période de confinement au sein de l'état d'urgence Covid-19. D'exonérer d'impôts sur le revenu de cotisations et contributions sociales par versement unique non reconductible. D'attribuer une modulation, notamment en fonction de la durée de la mobilisation et exposition des agents. Taux numéro 1, 660 euros pour les agents ayant eu un contact régulier avec le public, assuré une présence sur la voie publique ou ayant manipulé des objets ou matières à risque. Taux numéro 2, 330 euros pour les agents ayant eu, de façon répétée mais occasionnelle, ou dans des conditions encadrées, présent rendez-vous préalable, un contact avec du public ou exercer une activité nécessitant la manipulation d'objets ou de matières à risque. De préciser que le maire est chargé de l'application des différentes décisions de cette délibération par le biais d'arrêtés individuels d'attribution. De prévoir les crédits nécessaires au budget primitif chapitre 012, charges de personnel, frais assimilés. D'autoriser monsieur le maire à signer tout document en ce sens.
Merci, il y a des questions.
Oui, monsieur Muguet, ça concerne combien d'agents?
Entre 25 et 30 agents.
D'accord, merci.
Je mets aux voix, qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Dossier numéro 23, création d'un emploi permanent pour faire face à un accroissement saisonnier d'activité, service enfant jeunesse et service technique, rapporteur Antonio Muga.
Vu l'article 3 alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, vu le budget de la commune, considérant qu'il est nécessaire de recourir à l'emploi d'agents non titulaires pour faire face à un accroissement saisonnier et temporaire d'activité, considérant que ces agents exerceront à titre principal les fonctions d'adjoint d'animation territoriale et d'adjoint technique territoriale, oui, la proposition de monsieur le maire de créer ces postes d'adjoint d'animation territoriale et d'adjoint technique territoriale, il est demandé au conseil municipal d'accepter de créer des postes suivants pour un accroissement saisonnier. 21 postes d'animation territoriale à temps complet pour le service jeunesse, accueil de loisirs sans hébergement, club ado, temps d'activité, temps de périscolaire. 4 postes d'adjoint technique territorial à temps complet pour le service technique. D'accepter de créer les postes suivants pour un accroissement temporaire. 2 postes d'adjoint d'animation territoriale à temps complet pour le service jeunesse. Donc accueil de loisirs sans hébergement, club ado, temps d'activité périscolaire. D'imputer les sommes afférentes à cette dépense au chapitre 012 au budget principal de la commune.
Merci. Y a-t-il des questions? Madame Thibault.
Oui, monsieur Muga, ça concerne donc pour juillet-août, combien de recrutements pour juillet et août?
Ah, pour au niveau du centre de loisirs?
Oui.
D'accord. Pour le mois de juillet, ça concerne 5 contrats. Vous voulez le détail complètement? Voilà, donc 5 contrats pour juillet et 8 contrats pour le mois d'août. Après, on a 2 contrats supplémentaires en réserve, au cas où. D'accord. Et vous avez... après, on pourra en parler plus au détail à la commission du personnel qui aura lieu dans les prochains jours. Voilà.
Temps d'activité périscolaire.
Pardon ?
Non, mais parce qu'il y a 21 postes d'adjoint.
Oui, donc plus 6. Donc plus 6. Donc si vous ajoutez... Donc si vous faites l'addition 5 plus 8, voilà, plus 6, voilà, d'accord.
Alors, je mets aux voix, qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Alors, vous avez aussi eu au dossier l'état des déclarations d'intention d'aliénés de janvier à mai 2020, ainsi que l'état des décisions du maire de janvier à mai 2020. Y a-t-il des questions? Sinon, y a-t-il des questions diverses? Et sinon, il nous reste à vous annoncer que le prochain conseil municipal aura lieu à une date qui n'est pas encore fixée précisément, mais qui se situera aux alentours de la deuxième quinzaine de septembre. Donc, je vous souhaite au plus grand nombre, en tout cas, certains qui auront peut-être la chance de partir en vacances, de bonnes vacances. Et je vous souhaite une bonne soirée. Et puis on se retrouve, comme d'habitude, autour du verre de l'amitié.